Otaku, pour vous, la rubrique « Voici ». Salut les Ogiku Pontois et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Peut-être que c'est dû au phénomène d'Halloween qui depuis une quinzaine d'années a fini par envahir la France, mais octobre est devenu le mois de l'horreur. D'ailleurs, les fans de Walking Dead ont rendez-vous le 22 octobre pour retrouver Rick Grimm et son groupe de survivants en guerre contre le redoutable Negan. Mais ce n'est pas de ça que je veux vous parler dans la rubrique « On se mate quoi ?». Mais plutôt de 4 films qui vous offriront, selon votre sensibilité, quelques frissons ou de grosses sueurs froides. Et ouais, parce que cette année, des sorties horreurs étaient attendues et le sont encore. Si jamais vous avez envie de petites soirées frayeurs, voici quelques idées. En début d'année, le 25 janvier pour être précise, sortait Resident Evil chapitre final. C'est le 6e et dernier volet de la série de films réalisée par Paul Anderson qui s'inspire partiellement des jeux vidéo éponymes de Capcom. Je vous fais vite fait le topo de ce qui vous attend. À la suite des précédents événements, l'humanité vacille après qu'Alice a été trahie par Albert Wesker à Washington. En tant que dernière survivante de ce qui devrait être le dernier rempart de l'humanité face aux hordes de zombies, Alice doit retourner là où le cauchemar a commencé, à Raccoon City, où Umbrella Corporation rassemble ses forces pour un dernier assaut sur les derniers survivants de l'apocalypse. Dans une course contre la montre, Alice joint ses forces à d'anciens amis et alliés inattendus pour une bataille contre les hordes de zombies et les monstres mutants. Entre la perte de ses pouvoirs et les attaques d'Umbrella, ce sera l'aventure la plus difficile d'Alice tandis qu'elle se bat pour sauver l'humanité à un souffle de l'oubli. Bon, et l'horreur, ce n'est pas que des zombies, mais aussi des histoires de fantômes et d'esprits. Et quoi de mieux cette année pour se faire flipper un peu, ou beaucoup en ce qui me concerne, que le retour d'une célèbre poupée nommée Annabelle. Donc, sorti le 9 août, Annabelle 2, la création du mal, réalisée par David Sandberg. Il s'agit d'une préquelle de Annabelle de John Leonetti de 2014 et de Conjuring, les dossiers de Warren de James Wan de 2013. Donc, qui dit préquelle dit retour en arrière et l'on découvre un fabricant de poupées et sa femme, encore traumatisés par la mort de leur fille, qui accueille une bonne sœur et toutes les jeunes filles d'un pensionnaire dévasté. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que l'esprit malveillant entre dans le corps de la poupée. Personnellement, ce film a tous les ingrédients pour me faire peur. Une affreuse poupée, un esprit maléfique et des gosses pris pour cible. Bref, un véritable cocktail terrifiant en ce qui me concerne. Mais ce n'est pas le seul film cette année à malmener les enfants. Tiré d'un roman de Stephen King, le 20 septembre sortait la réadaptation de ça. Alors pour info, la première adaptation, réalisée par Tommy Lee Wallace, date des années 90. Pour le moment, c'est le seul que j'ai vu et j'avoue que depuis, je ne vois plus les clowns de la même façon. Faut dire qu'il en a fait stresser plus d'un, et le film est quand même reconnu comme un des classiques de l'horreur. Mais trêve de bavardage, voici son résumé si jamais vous n'avez pas encore vu la bande-annonce qui défilait en boucle sur les réseaux sociaux. Dans la petite ville de Derry, les enfants disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Durant ce temps, un groupe de 7 enfants se forme et s'unissent après avoir tous été confrontés à des événements horribles et étranges. La rencontre avec ça. Il s'agit d'une créature sans nom, semblable au croque-mitaine, capable de se transformer en ce qui nous fait le plus peur dans l'unique but de nous tuer afin qu'elle puisse s'alimenter. Sa forme préférée parmi ses multiples transformations est celle d'un clown plutôt terrifiant. Constatant que ça peut avoir un lien avec les mystérieuses disparitions d'enfants, le club des ratés, s'étant ainsi nommé les 7 enfants, décide de prendre les choses en main en partant à la recherche de la créature. Alors nous sommes nombreux à vouloir découvrir ou redécouvrir ce film. D'autant que la bande-annonce était quand même plutôt prometteuse et pour le moment, les critiques sont excellentes. Alors rendez-vous au cinéma Le Vauban de Pont ou à l'Atlantique Ciné de Saintes pour une séance de flip. Et peut-être que ce que vous aimez dans le cinéma d'horreur, c'est les trucs sanglants, avec des tueurs bien humains, mais totalement psychopathes. Et bien justement, je termine avec un film plutôt gore, Jigsaw, qui sortira au cinéma à partir du 1er novembre. Réalisé par Michael et Peter Spiri, il s'agit du 8e film de la série de films d'horreur Saw. Comme beaucoup, j'ai découvert le premier opus à sa sortie en 2004. Et avec les années, je dois avouer que je les ai trouvés passablement répétitifs, au point que j'ai arrêté après le 4e. Mais j'admets quand même que Jigsaw éveille ma curiosité, et donc je vous partage son synopsis. Alors que 10 années se sont écoulées depuis la mort de John Kramer et la fin de l'affaire Jigsaw, la police découvre des morts suspectes qui laissent penser que l'affaire n'est pas totalement terminée. John Kramer étant mort à la fin des événements de Saw 3, Amanda Young également, et Mark Hoffman ayant mystérieusement disparu il y a 10 ans après avoir assassiné Jill Tuck, qui peut bien se cacher derrière cette nouvelle série de meurtres? Jigsaw est-il réellement mort ou a-t-il seulement disparu pour mieux renaître? Est-ce le docteur Lawrence Gordon, complice caché de Jigsaw juste après les événements du premier film, qui a décidé de prendre la suite de son ancien patient? Ou est-ce une histoire encore plus profonde et plus macabre qui se cache derrière le retour de ces pièges machiavéliques? C'est à découvrir. Donc un nouveau tueur, bon ça, on commence à avoir l'habitude d'en Saw, mais la bande-annonce semblait montrer quelques nouveautés sur les pièges, et j'avoue, aussi sombre que ça puisse paraître, que c'est exactement ce que j'attends dans ce film. Et c'est donc à découvrir le 1er novembre. Je poursuis avec la rubrique « Une petite partie, ça te dit », où je vais vous parler d'un sous-genre du jeu d'action-aventure, le survival horror, bien sûr. Le terme est utilisé pour la première fois en 1996 pour la sortie au Japon du aujourd'hui très célèbre Resident Evil, influencé à l'époque par des jeux d'horreur tels que Sweet Home de 1989 et Alone in the Dark de 1992, qui aujourd'hui est quand même considéré comme le père des survival horror modernes. Mais pourquoi une nouvelle appellation puisque les jeux d'horreur existaient déjà? Eh bien tout simplement parce que le survival horror se démarque des jeux d'action et d'horreur notamment par son gameplay, qui met le joueur en position de vulnérabilité en limitant par exemple les munitions des armes ou les armes elles-mêmes. Du coup, même si l'univers peut parfois, et même souvent en fait, présenter des événements surnaturels, bah le joueur, lui, restera plus proche d'une certaine réalité. Alors tu vas commencer à avancer tout seul et sous-armé dans un environnement sombre, souvent aux allures de labyrinthe, et même si tu sais que ça va te tomber dessus, bah tu ne sais jamais trop quand, jusqu'au moment où là... Alors, IRL, faut pas se leurrer, il est rare de trouver un bazooka pour te défendre. Et bah dans le jeu, c'est pareil. Et tu seras bien content même de trouver un malheureux couteau à beurre tout rouillé, car dans pas mal de survival horror, tu n'as même pas d'arme. Bon, c'est vrai qu'avec une arme pareille, tu vas pas faire grand-chose, ça c'est sûr. D'autant plus si ton ennemi est un fantôme. Donc on en vient à un autre point de démarcation du survival horror, car ce genre de jeu n'est pas forcément axé sur le combat et la violence directe. Donc, si tu ne peux pas faire le gros bourrin avec une arme de ouf, bah réflexe certainement naturel et humain, tu prends tes jambes à ton cou, tu te caches et tu fais le mort jusqu'à ce que la menace s'éloigne. Mais le survival horror ne se résume pas qu'à ça, sinon il y aurait quand même peu d'intérêt. Un des thèmes principalement exploités dans ce type de jeu, c'est l'isolation en mode solo. Et il contient que peu de personnages. Donc souvent, l'histoire du comment tu t'es retrouvé dans cette galère t'est expliquée par des objets à récolter, mais ils peuvent aussi être utiles à ta survie ou à résoudre des énigmes qui te rapprochent de la sortie. Donc parfois, tu vas être obligé de prendre des risques, même si tu tentes de rester discret. Et oui, parce que le survival horror est plutôt fourbe. Au gré d'une bande-son toujours angoissante, voire même dérangeante, il cherchera à te faire anticiper le pire, même si finalement, il se passe que dalle. D'ailleurs, certains jeux ont largement prouvé qu'il n'est pas nécessaire de virer dans le gore pour faire peur. En tout cas, des survival horror, il y en a pour tous les goûts. Les Resident Evil, Outlast, Little Nightmare, Amnesia ou encore Dead Space ou Soma. Bref, la liste est longue et il ne tient qu'à vous d'y faire face. Et on poursuit avec l'agenda des sorties. On commence avec les conventions geek et otaku. Rendez-vous le 14 et 15 octobre à Dijon pour le Saiten. Voici deux invités présents sur qui j'ai envie de faire un petit zoom. Sanoé, diplômée de l'ECV de Bordeaux en section animation multimédia, travaille en tant que graphiste freelance. Elle a publié en 2016 un premier album jeunesse, Itsubuchi, le petit samouraï, aux éditions Nobi Nobi. En septembre cette année, elle enchaîne avec une bande dessinée intitulée La Grande Ours aux éditions Soleil et elle en fera la présentation lors de l'événement. Il y a aussi Eirin, l'auteur de Chronoctis Express, qui vient présenter son manga qui a débuté en webcomic gratuit en 2014. Fort de son succès public, plus de 20 000 lecteurs tout de même, il est depuis septembre édité chez Kotoji Edition. Bien sûr, il y aura également de nombreuses activités qui vous seront proposées, notamment un sport très populaire chez les sorciers de Poudlard, du Quidditch, mais version Moldu. Et vous pourrez également assister à la sélection de la Coupe de France de cosplay. Puis, du 27 au 29 novembre, c'est la Comic-Con de Paris. Le cosplay y sera à l'honneur avec la troisième édition du French Championship Cosplay, qui se déroulera le samedi. Rencontrez également de nombreux invités tels que Rebecca Isaacs, Tim Sol, La Patte du Tigre et Laurent Zimny. Sur place, beaucoup d'exposants, bien sûr, pour ne pas repartir les mains vides. Et maintenant, on fait un petit point sur les sorties jeux. Le 13 octobre, sur PC, PS4 et Xbox One, Tango Gameworks et Bethesda Softworks vous proposent The Evil Within 2, un survival horreur dans lequel vous incarnerez l'ex-inspecteur Sebastian Castellanos, toujours en quête de réponse. Une chance de sauver sa fille va lui être offerte, mais pour cela, il devra plonger dans un monde cauchemardesque. Cette suite vous donne la possibilité d'adapter votre approche soit par l'affrontement ou l'infiltration. Ce sera à vous de voir. Et j'enchaîne avec deux gros titres stars de l'E3 2007 qui sortiront tous les deux le 27 octobre. Chez Nintendo d'abord sur la Switch, Super Mario Odyssey. Et voici les quelques points à retenir pour la nouvelle aventure du plombier en salopette. Le jeu reprend les solides bases acquises dans ses aînés pour les améliorer. Peach et Bowser sont de retour et on a appris que la casquette de Mario s'appelle Cappy, considérée même comme un personnage à part entière et qui prend une grande place dans le gameplay. Elle permet notamment de prendre le contrôle d'ennemis ou d'objets pour profiter de leurs capacités et même de servir de plateforme temporaire. Un mode multijoueur sera disponible et bien que Nintendo vous offre un vaste monde en 3D, vous retrouverez également des phases de plateforme et d'énigmes en 2D. Puis, direction l'Égypte ancienne avec le très attendu Assassin's Creed Origins, qui nous explique, dans un univers où la mythologie égyptienne est mise sur un piédestal, comment les héros de la franchise d'Ubisoft ont vu le jour. Et visiblement, la confrérie serait née d'un combat, celui de Bayek, nouveau héros de la série qui va tenter de sauver son peuple et sa région natale d'une entité corrompue. S'agit-il des Templiers ? Eh bien, à vous de jouer pour le découvrir. Et je finis l'agenda des sorties avec les nouveaux mangas. Je vous propose de découvrir deux shonen qui sortent le 4 octobre. Le premier, Red Dragon, du genre aventure et fantastique par Ikemo Masahiro aux éditions Glénat. La dynastie Qin a fondé le premier empire en Chine, mais cette dictature laisse le peuple dans la misère. Louis Bang et Lu Wan, deux amis d'enfance issus de la classe populaire, décident d'allier leurs forces pour organiser une rébellion et prendre le pouvoir. L'un par sa force brute et l'autre par son intelligence. Découvrez donc les débuts de cette belle aventure dans Red Dragon. L'autre shonen proposé par les éditions Delcourt Tamkan est plus girly. Du genre romance et suspense, Wonder Rabbit Girl par Hirose Yui. Voici son résumé. Le jour où Ren sombre dans la folie et se retrouve hospitalisé, son frère, Rei, un jeune garçon introverti, décide de le venger. Son seul indice, une clé USB contenant une liste de lycéennes et leurs points faibles. L'une d'entre elles est Wonder Rabbit Girl, la responsable de l'état de Ren. Rei va alors se faire passer pour son frère. Suivez son enquête dans Wonder Rabbit Girl. Et je finis par Good Morning Little Briard Rose, un shoujo du genre romance et tranche de vie par Morino Megumi, qui sera publié par les éditions Akata le 12 octobre. Parce qu'il souhaite prouver à son père qu'il peut arrêter ses études à la fin du lycée, Tetsu a commencé à travailler comme employé de maison pour la prestigieuse famille Karasawa. Dans la demeure surnommée « la maison au sommet de la colline », le lycéen se doit de respecter une seule règle, ne pas s'approcher de l'annexe du jardin dans laquelle vit cloîtrée la jeune fille malade de la famille Karasawa. Pourtant, un jour, son regard croise celui de la mystérieuse Shizu. Attiré par son sourire empli de tristesse, Tetsu se permet alors de braver l'interdit. Découvrez les nombreux secrets qui entourent la jeune fille dans Good Morning Little Briard Rose. Et voilà les Ogiku, la chronique est terminée. Mais on se retrouve très bientôt et comme toujours, on se quitte en zik avec I'm a Man de Black Strobe que vous avez pu entendre à la fin de l'épisode 2 de la première saison de Walking Dead lorsque Glenn quitte Atlanta en voiture. Sur ce, je vous laisse et à très bientôt. We can have a lot of fun. I'm a man. A style and A M. Oh, man.
résiste.